bien, merci Jean-Jacques pour l'ensemble de l'exposé. Enfin, on peut constater qu'il y avait une partie de l'exposé de Jean-Jacques et l'exposé de Carlos qui se répondaient vraiment tout à fait sur la responsabilité, sur l'acte essentiellement, et puis aussi sur la liberté de l'analyse dans la mesure où il sait bien quelle est sa politique. Il parle beaucoup de liberté aussi, l'analyse. Alors moi, je vais poser une question qui est beaucoup moins drôle que ce que tu viens de dire, que je vais poser à Carlos, et puis que je vais presque te demander de commenter, après, si tu veux bien. C'est la question qui peut sembler vertigineuse. Si nous intervertissons un peu les termes, Carlos explique bien qu'effectivement, tenir une position responsable dans la direction d'une analyse implique d'avoir rencontré cette limite que l'on ne franchit jamais trop longtemps sans risque majeur. Et il continue, ce rapport fondamental au désir est un rapport à la mort, à la détresse, où on ne peut attendre d'aide de personne. Ça, effectivement, c'est ce qu'on doit attendre de la cure d'un analyste, pour qu'il puisse occuper cette fonction. Mais un peu avant, il a dit, je te cite, « Jusqu'où pouvons-nous aller dans l'analyse, dans la perspective de défaire les illusions qui font barrière au désir ?» La question de quelle cure parles-tu, là ? Jusqu'où pourrons-nous aller dans l'analyse ? Et puis, si tu veux bien, tu nous donneras ton avis, ton sentiment sur cette question vertigineuse.
Vertigineuse. En fait, c'est une question qui pose Lacan, en fait, hein, dans le séminaire, et c'est la question, en fait, de... je pense que pour pouvoir répondre, il fallait faire tout le détour sur cette question d'Asline, en fait, sur la question du désir. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée quand même que l'analyse, en fait, l'axe, disons, d'une analyse, c'est la question du désir. Hein, c'est-à-dire quel est le désir inconscient. Mais que dans cette traversée du désir inconscient, il y a toute une série de conséquences, c'est-à-dire chute des idéaux, des illusions, etc. Rencontre aussi avec la dimension du désir qui est purement métonymique, c'est-à-dire qu'il peut toujours glisser d'un objet à l'autre, et que effectivement dans ce glissement, en fait, il faut bien qu'il y ait une limite. Et cette limite, c'est la rencontre justement avec ce que Lacan n'utilise pas à ce moment-là, parce qu'il n'a pas ce concept, c'est l'objet, c'est-à-dire en quelque sorte, rencontrer quand même un point, disons un point d'un possible recouvrement. Disons de l'objet cause de désir par un objet quelconque, c'est-à-dire d'un possible recouvrement. C'est une manière de dire que, au fond, il y a une limite par rapport à la satisfaction du désir. Hein? Au fond, il y a une limite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun objet qui puisse le satisfaire complètement, sinon, si ce n'est pas au prix de la mort, quoi, en quelque sorte. C'est une lecture de la thèse de la pulsion des morts de Freud.
Oui.
Donc, c'est l'idée que. Pour que l'analyste puisse conduire quelqu'un dans cette traversée, il faut qu'il puisse lui-même avoir fait l'expérience de cette limite. Disons, c'est la limite en fait, qui touche au réel, comment possible à dire, comment possible à satisfaire, etc. Effectivement, c'est une question vertigineuse. Pourquoi ? Parce que ça implique que l'analyste, en fait, lui-même, il a atteint un point, disons, de solitude, de profonde solitude. C'est le point, en fait, où, en quelque sorte, il n'y a rien, disons, du côté de l'autre qui peut répondre, disons, à la satisfaction de son désir.
Mais moi, c'est le point d'interrogation que j'interroge. Jusqu'où pouvons-nous aller dans l'analyse, dans la perspective de défaire les illusions qui font barrière au désir ? C'est qu'on pourrait supposer que c'est quelque chose qui s'adresse à l'analysant, là, quand tu dis ça, toi. C'est ton point d'interrogation. Puisque c'est une question, ce que tu décris, Benjamin.
Jusqu'où pouvons-nous aller ? C'est plutôt. Alors là, on a plutôt l'idée que c'est l'analyste, quand même.
Ah ben, il y a l'analyste après qui est bien décrit. Hein. Mais jusqu'où l'analyste peut-il aller ? C'est ça.
En fait, c'est les deux.
C'est les deux. Alors oui.
Il y a l'analyste. Oui, mais effectivement. Mais ce qui est disons qu'on rejoint ici une question qui est une question freudienne, qu'il évolue, qu'il, traite dans analyse de Fini, etc. Bon. Et puis aussi dans les constructions d'analyse, qui est un texte très, très étrange, où la question de cette limite est posée. Alors ce qui est curieux, c'est que chez Freud, en tout cas, ça ne se présente pas sur le même plan que son pénis Nide et sa castration. C'est-à-dire, c'est assez étrange. Alors, évidemment, Lacan, lui, il essaye de rabouter tout ça. Bon, il le fait de plusieurs façons, mais l'une des façons, c'est que, disons, il écarte cette affaire de pénis Nide, hein, parce qu'il va, disons, en tout cas, il va le traiter autrement, en tout cas, il n'en fait pas du tout, il ne le pose pas du tout comme limite. Il faut quand même être un peu réaliste sur ce qui intéresse Freud et ce qui fait interrompre l'analyse, là où Freud interrompt l'analyse. Là, on peut être quand même... Lacan est très... enfin, à la fois très prudent, hein, mais en même temps très clair. C'est-à-dire quand même... c'est lui d'abord, c'est lui qui décide de la fin. C'est Freud qui décide de la fin. Puis ça s'arrête à un moment... où, en effet, les limites du pénis Nide, etc., sont acquises. Donc, très bien.
Oui. Et puis après, ça, alors, sur les...
Je pense en fait que ça comporte en fait plusieurs problématiques, en fait. Mais c'est intéressant, en fait, qu'en quelque sorte, qu'il indique que, disons, pour conduire le sujet jusqu'à un certain point, il faut qu'il l'analyse, en fait, soit déjà lui. Disons, je le dis parce que ça ne va pas de soi pour tout le monde. Disons, il y a encore de... Ils ont des groupes analytiques où on ne considère pas forcément comme une condition qu'un analyste en fait ait fait une analyse, avec une certaine exigence, par exemple. Hein. Donc déjà, il y a cet aspect. Le deuxième aspect, c'est quand même que l'analyste est au service de la vie aussi. Hein, donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il dit jusqu'à quel point en fait on est en droit, disons, de faire tomber toutes les illusions, etc. C'est-à-dire que c'est quand même, ça reste au service de la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même que pouvoir le conduire jusqu'à ce point qu'il appelle de l'entrée du mort, de l'entrée du mort, mais pour mieux, lui permettre en fait de faire avec la vie. C'est-à-dire qu'il soit ami avec la vie. Hein. Donc, moi, j'ai trouvé que ça, c'est un point très important. Et après, ça introduit la question de la limite, c'est-à-dire comment l'analyste joue aussi dans la limite. C'est-à-dire parce que d'un côté, c'est l'analyse en fait qui met un terme, mais ce n'est pas sur ma lecture m'a conduit à penser que ce n'est pas sur la participation de l'analyste aussi. C'est-à-dire qu'il doit aussi. C'est prêté, en fait, pour que l'analyste lui mette un terme, puisque l'analyste, il pourrait ne pas le faire. Et, disons, renoncer à l'infini, les associations, la quête des sens, etc., etc. Donc et du coup, la question de la limite se pose à plusieurs niveaux. Voilà.
Très bien. Des questions ? Alors, qui se lance ?
Vous savez tout.
Colette.
Moi, je voudrais questionner le rapport de la chose à la mort.
Voilà. Il faudra un micro.
Oui, alors, bien sûr, dans l'éthique de la psychanalyse, ça barde, hein, avec Antigone. On va jusqu'aux extrêmes, l'entre-deux-morts, etc. Bon. Et comme dit Lacan, c'est vertigineux. Mais je vous fais remarquer, Carlos, que pour, quand on vous a posé la question, vous avez reformulé la chose. Enfin, pas la chose, l'insigne, mais vous avez donné d'autres formules pour dire le point jusqu'où il faut aller. Et qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, il y a de l'impossible à dire, il y a de l'impossible à satisfaire. Ça n'est pas vertigineux, l'impossible à dire, l'impossible à satisfaire. Hein. Et donc, moi, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas être d'accord avec la formule qui dirait, que vous n'avez pas dit d'ailleurs, mais qui dirait que la chose, c'est le désir de mort, ou la pulsion de mort de Freud. Non, la chose, c'est le trou dans le symbolique. Bon. Et donc, bien sûr, il faut qu'une analyse qui opère avec le langage et les associations et tout ça aille jusqu'au point où le sujet saisit qu'il y a de l'impossible à dire. Il y a ce trou, etc. Mais ça n'est pas lié à la mort. L'impossible à dire, quel est le rapport entre l'impossible à dire et la mort? Ce n'est pas intrinsèque. En ce sens, Antigone, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais ça ne donne pas l'essence de la chose même.
Hein. Et même pour ce qui est d'Antigone, il ne fait pas de la mort d'Antigone, je veux dire, le résultat de l'opération. C'est la mort de l'Antigone est, disons, démonstrative de l'enjeu, mais en réalité, si Créon avait été un peu moins con, qu'au lieu d'aller enterrer d'abord Polynice, avant d'aller sortir Antigone de son tombeau, tout se serait terminé très bien. Je veux dire,
oui, Antigone n'a pas un désir de mort.
Absolument pas.
Antigone accepte la mort. Elle sacrifie sa vie au désir qu'elle tient, mais il n'y a même pas un désir de mort.
Mais Lacan dit que c'est un désir de mort. Lacan, il utilise cette phrase. Dans
mais parce qu'il
dit que c'est un désir de mort.
C'est vrai, sauf...
C'est lui qui l'utilise.
Oui, sauf que le terme de désir... Moi, je serais comme le Lacan de la fin. Hein. Le Lacan de la fin, il parle plus beaucoup de désir parce qu'il s'est aperçu que ça entraînait un certain nombre de confusions et de complications et de malentendus. Hein. Le plus spectaculaire, c'est évidemment le désir d'enfant qui a été une catastrophe dans le monde, pas seulement psychanalytique, et dont on a d'ailleurs le retour aujourd'hui de façon... dramatique, avec, disons, tous les trucs sur l'autisme, etc. Donc, c'est contre la psychanalyse, je veux dire. Et le terme de désir est problématique. Donc,
oui. Non, mais c'est très important quand même que Lacan, il faut voir...
Il s'en est
sûr. Sur quoi il s'appuyait quand même et de quoi il voulait se distinguer. C'est très important... qu'il ait quand même beaucoup insisté, même fait vibrer la dimension d'infinitude du désir, la dimension aussi d'insondable, hein, etc. C'est très très important, mais pour nous c'est devenu un peu... on ne mesure pas contre quoi ça parlait en quelque sorte, parce qu'on
mais c'est daté,
on est,
oui, oui.
C'est devenu daté, oui. Mais c'est vrai que je dis ça parce que c'est par rapport à votre question, jusqu'où peut-on aller si le désir c'est un désir de mort, évidemment, on ne va pas dire l'analyste il pousse le patient dans le désir de mort, c'est ça.
Ah, oui. Non, je comprends la question parce qu'effectivement, ça ne se présente pas comme ça.
Effectivement, non, ça ne
se présente pas comme désir de mort. C'est un personnage aussi mythique. Lacan a utilisé le terme de désir de mort aussi en référence à Socrate. dans le séminaire de transfert, il dit aussi Socrate témoigne du désir de mort. Ah, il dit il y a un vrai désir de mort.
Ah, c'est le désir de mort.
Des cités.
Et on distingue même trois genres dans Fonction et Champ. Trois genres de désir de mort. Très joli passage.
Et c'est intéressant quand il parle de Socrate dans le transfert, puisque en quelque sorte, il essaye de trouver la place du psychanalyste par rapport à Socrate, justement, en quoi il est différent, etc., même s'il y a une, il hérite aussi de la tradition socratique. Mais il y a quand même l'idée que chez Socrate, il y a un désir des morts, mais parce qu'il y a l'oracle, en fait, qui lui a donné une place, disons, qui peut lui permettre, en fait, d'y aller jusqu'au bout, en quelque sorte.
C'est
annoncé par l'oracle.
C'est-à-dire, désir de mort, il faudrait l'entendre comme le désir d'aller au bout.
Oui, d'aller au bout.
Quelque chose comme ça.
Non, moi, bon, en fait, moi, ce que j'ai entendu dans ce que disait Carlos, c'était nous n'avons pas Antigone en analyse. Alors moi, j'en ai
oui, on n'a pas.
Dans notre travail quotidien, et ce soutien du désir, jusqu'où ? Et précisément, jusqu'où peut se soutenir le désir d'un sujet dans la mesure où ça peut le mettre en face de grands risques, de mort ou de divers risques dont tu as parlé aussi. Tu as parlé du dernier Lacan. Il est clair que soutenir le désir, c'est aussi mettre un certain suspens à certaines jouissances. Donc c'est tout à fait actuel. Et là, il y a effectivement quelque chose qui est dans notre problématique quotidienne. Ce jusqu'où m'intéresse.
C'est ça. C'est le point d'interrogation.
Moi, j'ai tout ce qu'on est, je suis d'accord avec votre commentaire, Colette, mais je trouve qu'il y a un lien avec cette question de la chose, c'est par rapport à l'idée, disons, c'est pour ça que je pense que c'est une lecture quand même de la pulsion de mort, par rapport à l'idée que la satisfaction, en fait, on va dire la satisfaction totale, ça serait la mort, en fait, au fond.
C'est ce que Freud dit.
Voilà, et donc, mais je pense qu'il réintroduit ça pour dire, effectivement, que, pour dire que justement il y a l'opération analytique permet à un sujet, disons, de toucher le point où aucun objet, justement, viendra répondre en fait à une satisfaction en fait totale. Et que du coup, ça change, disons, la perspective du sujet par rapport à son désir, quoi, à l'objet, etc. etc. Donc, je pense que c'est sur ce point-là. Après, je pense que la question de Lacan, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il propose ça à partir d'une critique des post-freudiens. Sauf que les post-freudiens, ils savaient leur limite, qui était très claire. La limite pour les post-freudiens, c'était l'identification à l'analyste comme modèle. Donc en fait, il y avait une idée quand même, un cadre assez clair, disons, de qu'est-ce qui était visé. Et donc, à partir du moment où on dit que ce n'est pas ça, alors qu'est-ce qui introduit la limite, hein? Donc, mais effectivement, ça reste quand même une question, parce que la question qu'ils disent, disons, le désir de l'analyste, il dit bien, c'est un désir inédit, c'est-à-dire que il le laisse interroger, c'est-à-dire que ce n'est pas un désir qu'on puisse, nommer, si ce n'est pas d'une manière, singulière, disons.
Je crois aussi, sur le désir de l'analyste, on peut aussi, comme d'ailleurs vous l'avez dit très bien, le désir de l'analyste, c'est un truc qu'il a inventé pour contrer précisément le contre-transfert. Bon, ça, c'est absolument manifeste. Bon. Simplement, lorsqu'il utilise ce terme, c'est vraiment avec tous les, je dirais, toutes les brumes du Nord. C'est-à-dire, c'est pas du tout un terme qu'il utilise, disons qu'il garde tout son mystère. C'est-à-dire, le désir de l'analyse, il y a tout un côté où on ne sait pas ce que c'est. Et c'est fait pour qu'on ne sache pas ce que c'est. Le désir de l'analyse, bon, il y a une définition simple. Son désir, c'est que l'analysant dise, voilà, point. Et ça s'arrête là. Moi, c'est l'idée que j'en ai.
Attendez, il y a une question là-bas.
Je m'interrogeais pourquoi on parlait de désir de mort, et je voulais demander à Carlos si tu parles de désir de mort, parce que ce n'est pas du tout comme ça que j'ai entendu ton texte aujourd'hui. Il me semblait que tu parlais que l'analyse vise le désir inconscient, que les désirs inconscients est métonymique, et qu'au bout, une des limites, la limite du désir, c'est la mort. Mais ce n'est pas un désir de mort. J'ai vérifié que c'est bien comme ça qu'il faut comprendre. Et que l'analyse doit être allée à cette limite-là. En ce sens-là, il est averti qu'il peut mener l'analysant aussi loin que l'analysant veut aller. Mais ce n'est pas un désir de mort.
Oui, c'est une autre manière de le dire. S'il dit, il y a la question de l'entrée de mort, il dit, il y a une première limite. C'est la limite, en fait, qu'il faut franchir quand même pour que la réalisation du désir se fasse, c'est-à-dire de franchir la limite de la crainte de mort. Parce que par contre, ça, on entend ça dans la clinique, la crainte de la mort. Donc il dit, donc voilà, donc assumer son être pour la mort, c'est franchir cette limite. C'est une manière de dire que franchir cette limite, c'est ce qui permet quand même de donner du sens à ce qu'on appelle la vie. C'est-à-dire que la vie, elle prend son sens parce qu'il y a la mort. C'est-à-dire la vie a sa couleur, son sens, parce qu'il y a la mort. C'est peut-être là qu'on le dit quelque part. Il dit, si on était sûr que la vie est éternelle, ben ça serait insupportable. Parce que du coup, au nom de quoi, on se lèverait, on ferait l'amour, on ferait des enfants, on irait au travail, etc. C'est-à-dire toute la chaîne du désir perd. Ils ont perdu sa consistance, en fait, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est dans cette idée-là, en fait. Ça permet aussi de montrer que justement, la psychanalyse, en dernier terme, ne vise pas non plus les non-sens, disons. Parce que, des fois, il y a ces glissements-là aussi. C'est-à-dire qu'on vise à tout prix, disons, à vider le sens, disons, comme... Les gens comme horizon la question du non-sens, mais je pense que justement que la question de l'éthique replace l'opération dans le sens que ce qui est visé, ce n'est pas non plus le non-sens comme horizon. C'est une question où le sens, en fait, s'articule différemment, hein, puisqu'il tient compte, en fait, du réel, mais ce n'est pas absence de sens.
Et moi, je crois qu'il faut se demander pourquoi Lacan a cessé de parler du désir, pratiquement. Ouais. Pourquoi il s'est mis à parler de l'acte de l'analyste après avoir introduit son désir? Pourquoi à la fin il dit, mais quand même, la psychanalyse ne va pas devenir la religion du désir? Etc. Bon, c'est très... Mais je crois qu'il y a une raison qui est vraiment essentielle. C'est que dès lors que le désir est un impossible à dire, incompatible avec la parole, on ne peut plus dire que quiconque fait cela parce que c'est son désir. On peut juste dire il fait cela, il prend des risques. On ne peut plus dire que c'est son désir qui lui fait prendre des risques, puisqu'on ne peut pas formuler le désir, hein. On a affaire à un impossible. Donc le tournant, c'est quand même le moment où il commence à dire le désir incompatible avec la parole, ce qui est une autre façon de dire impossible à dire. Et donc, il faut bien avoir un autre instrument pour ne pas utiliser un terme qui permet toutes les fantasmagories de la réalité. Et même le désir de l'analyste, ça s'applique au désir de l'analyste aussi. Il faut voir ce qu'on en fait du désir, ce qu'on dit autour du désir de l'analyste. Alors, de temps en temps, on s'en sert pour se vêtir de l'âne blanc.
Enfin
bref,
Françoise.
Oui, je voulais juste rappeler que Lacan, à un moment donné, la vie, il écrit en un mot. Alors, Marie-Noël Jacob Duvernay avait parlé aux dernières journées sur oser la vie en un mot. C'est-à-dire qu'en fin d'analyse, cette angoisse de la mort, dans son impossible à imaginer, à dire, etc., elle peut un peu s'apaiser, je dirais, parce que on ose la vie en amour. Hein. Et c'est vrai que les délires sénestopathiques, ce délire que Lacan dit d'éternité, hein, l'horreur, justement, s'il n'y a pas de fin, eh ben c'est insupportable. Donc peut-être on en a parlé, on en parle tout à l'heure, cette limite que l'analyse peut permettre de pouvoir un peu rencontrer pour oser vivre, je dirais, pour oser.
Moi j'ai pas une question. Personne ne
suit.
Alors une question pour Jean-Jacques.
Oui. Une question.
Si moi j'ai pas une
question. C'est bien.
Tiens là-bas il y a.
Voilà, mademoiselle.
On va aller voir.
C'est Armando. Armando.
C'est un rapport avec faire semblant d'objet d'étude pour l'analyste de ses désirs. Parce qu'il me semblait que, justement, par rapport à la phrase d'analyste, il y a ces moments où je pense toujours aux trois temps où il faut regarder tous les autres qui sont donc les trois, et ces moments où il faut en quelque sorte regarder l'analyste en face, qui il y a ces questions, parce que vous avez insisté à un moment donné des passes à l'autre.
Oui. Passant. Oui, passant. Parce que. Enfin, moi, je faisais simplement remarquer qu'il faut faire un petit peu attention avec le réel. Le réel, il s'appréhende, je dirais, en prise directe, surtout, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il dit dans la psychose. C'est là où on voit. Mais cela dit, dans l'analyse, le réel, il n'est pas en prise directe. C'est ça. C'est que. Non, mais. Il n'est pas en prise directe et que l'environnement, c'est pour ça que même dans l'histoire des trois prisonniers, les conditions de l'expérience, c'est-à-dire on raconte une histoire, ensuite il y a un problème, et l'intervention du temps dans le problème rend la chose, enfin c'est ce qui fait le plus qu'ajoute Lacan, c'est-à-dire de mettre le temps dans l'histoire. Il faut non seulement faire le raisonnement qui permet de savoir ce qu'on a dans le dos, hein, mais en plus, il faut que les autres aussi fassent ce raisonnement-là. Ça, c'est la spécificité du raisonnement lacanien, justement. Et c'est là où on voit bien que, alors, évidemment, c'est un dispositif artificiel. Un dispositif artificiel, mais qui indique donc le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, ici, il se présente sous un... Alors, bon, c'est un peu compliqué, parce qu'il se présente sous un jour apparemment symétrique. La seule entorse à la symétrie dans le temps logique, c'est qu'ils sont trois. Et trois, ça ne marche pas bien avec la symétrie. C'est toujours très difficile de faire fonctionner trois avec la symétrie. Avec le 2 à 2. Donc, c'est ce point-là qui fait intervenir, disons... l'affaire de l'analyse, puisque dans l'analyse, comme il le dit tout le temps, on est trois. Hein. Mettons, il y a l'analyste, l'analysant, et puis ce dont il parle. Hein. Ça fait trois.
Mais quand on est trois, on est toujours quatre.
Ouais. Et en plus, en plus, quand on est trois, on est aussi quatre. Ça n'empêche que la question de savoir si on est dans un système, c'est une question qui intéresse, disons, les musiciens, n'est-ce pas, de savoir si on est dans quelque chose qui est à trois temps ou qui est à deux ou quatre temps. Je vous fais grâce du 6-8, hein, qui est en fait un deux temps.
C'est une valse ou autre chose?
Non, le 6-8 est un deux temps. Bon, c'est compliqué. C'est une petite complication comme ça. Mais c'est pour dire que l'organisation de la pensée de Lacan, il faut quand même s'apercevoir qu'elle est toujours ternaire. Elle est à trois. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne rajoute pas un quatrième terme à l'occasion. Mais ça n'en fait pas un 4-4.
Si je puis dire. C'est un plus que deux.
Voilà. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et c'est assez important parce que Alors évidemment.
Mais tu as glissé gentiment du nombre d'éléments au nombre de temps. C'est pas tout à fait pareil. En musique, c'est le nombre de temps dont tu parles.
Dans le temps logique, il y a aussi.
Ah, oui, d'accord. Moi,
il y a aussi trois temps.
Je parlais de l'analyse. Marc.
Oui, Carlos, tu parles là pour contenter de traverser pour te poser. Passons à une question inverse de ce que tu évoquais tout à l'heure et dont parle Lacan, c'est justement que ça va freiner les attentions du patient qui veut aller trop loin. Et il y a quelques remarques de Lacan dans ce sens-là. Autrement, il a su freiner les tentations d'un Artaud, des choses comme ça, je ne sais plus précisément. Ça aussi la position d'analyste de pouvoir ralentir. Ma question est à Jean-Jacques, c'est une question qui m'intéresse comme ça, que j'ai un thème de l'année du Collège clinique. Tu l'as évoqué aussi très rapidement et simplement, tu pouvais dire ce qu'il y a de commun entre l'amour courtois et l'homme musical.
Ah. Oui, alors c'est un peu compliqué parce que je suis désolé.
Non, je voulais juste rajouter quand même une occurrence de Lacan qui, à mon avis, va dans ce sens-là. C'est qu'il dit, bon, caricaturons, il dit dans le séminaire d'éthique, il dit caricaturons. Bon, quoi faire par rapport en fait à l'homme qui veut avoir toutes les femmes, mais qui effectivement ne peut pas les avoir, ou la femme qui veut l'homme idéal, mais qui effectivement ne le trouvera jamais. Et donc, il faut bien que face à cette impossibilité, il trouve une mesure convenable, disons une satisfaction qui soit tenable. Voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est-à-dire une satisfaction qui soit tenable.
Cette question qui est effectivement très, très importante, simplement elle demande un développement important, puisque pour pouvoir répondre à la question pourquoi le Wettstein, pourquoi il est question de l'amour courtois, bon, c'est vrai, j'ai essayé un peu de la traiter, mais on est obligé de passer par la reine de Navarre, par l'heptaméron de la reine de Navarre pour comprendre comment ça marche. Hein? Oui, c'est ça, ça demande un développement important. Parce que, bon, en gros, la chose importante, c'est l'intervention du récitant. Alors, comment on va à l'amour courtois? C'est le récitant, qui est Jacques Hold dans Le ravissement de Wettstein, qui devient à un moment donné acteur. Il devient acteur, fasciné qu'il est par Lol Wettstein, qui par ailleurs ne présente pas les caractères les plus évidents de l'amour. Hein, Disons que l'autre est certainement beaucoup plus séduisante. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Bon.
Tatiana. Bien. Donc, voilà. Pourquoi il faut passer par les Tamerons, par la reine de Navarre, c'est explicite hein, dans l'hommage. Hein. Ce n'est pas une invention de ma part. Parce que l'Holvestein est folle. Il y a la fascination pour la folie.
Ouais.
Bon. Et du coup, il se trouve dans la position, de l'amadour de l'Heptaméron, c'est-à-dire le type qui est amoureux transi, qui d'ailleurs quasiment viole celle qui l'idéalise. Depuis tout petit, enfin depuis toute petite, faut dire, il avait 12 ans quand il est tombé amoureux, n'est-ce pas, de Floride. Bien, eh bien, c'est ce passage-là que Lacan privilégie dans l'Holvestein. Et qu'il, disons, il y a une homologie avec la position de la d'Amadour comme chevalier transi. On voit bien que ça n'est pas un amour, comme on dit, platonique dont il est question, ni dans d'un côté ni de l'autre. Cela dit, l'expérience sexuelle de Jacques Holt avec l'Holvestein, c'est plutôt la catastrophe. Voilà. Donc
ta lecture, c'est que ce qui intéresse Lacan là-dedans, c'est les hommes.
Ah non.
C'est l'homme. Tu nous parles de l'homme dans les deux cas.
Oui, donc alors, je commence par l'homme.
C'est pas ça.
Je commence par l'homme.
Et tu finis le cours.
On parle d'hommes, ensuite il y a les femmes, évidemment. C'est-à-dire, mais c'est pour faire saisir cette position qui part de là et ensuite, effectivement, s'intéresse à qu'il en est des femmes dans l'histoire.
Voilà,
j'aime bien cette formule.
On va
là-dessus,
on va voir un coup.
Ça te plaît pas?
Merci beaucoup.